Bonjour, je suis Chantal Calatayud. Je vous remercie d'être venue. Nous disions entre nous que c'était courageux un dimanche matin à 11h de venir, même s'il fait beau. Donc c'est sympathique. Alors j'ai la difficile tâche de parler de psychanalyse, même si c'est une discipline qui a plus de 100 ans, c'est quand même quelque chose qui demeure très complexe. Alors je compte surtout sur vous pour ponctuer en fait mon pseudo-discours de questions. Je trouve que c'est ça qui est intéressant. Donc il y a un micro-baladeur et vous pouvez tout à fait intervenir quand vous le voulez. Pour moi c'est plus agréable, plus dynamique et puis ça m'aide aussi à avancer. Alors je suis psychanalyste. J'ai créé il y a maintenant pas mal d'années sur Avignon l'Institut français de psychanalyse appliquée. Établissement donc dans lequel je forme de futurs psychanalystes, art-thérapeutes aussi et psychothérapeutes, tout cela bon des sens analytiques. Par ailleurs, à l'aide d'une équipe très dynamique aussi qui a pris naissance au sein de l'Institut de psychanalyse, eh bien nous avons mis en place la revue Psychanalyse Magazine, qui s'est d'abord appelée le Journal de la psychanalyse, qui est une revue donc, que l'on trouve en kiosque presse. C'est une revue qui a pour sens, un petit peu tout que, comme ma présence et la présence de l'équipe de Psychanalyse Magazine, de désacraliser la psychanalyse. Nous sommes plusieurs professionnels à en avoir un petit peu assez, notamment par presse interposée ou par méthodes audiovisuelles multiples et variées interposées, d'entendre raconter n'importe quoi sur la psychanalyse, indépendamment du fait que depuis quelques années, malheureusement, certains membres du gouvernement en place nous assimilent à des sectes de façon plus ou moins déguisée. C'est vrai qu'il faut que ces choses-là erronées s'arrêtent, pour la bonne raison que la psychanalyse obtient de bons résultats en prise en charge individuelle. Alors, je vous disais qu'il s'agit d'un sujet difficile. Pour la bonne raison que même transmettre comme ça la psychanalyse en groupe touche ce qu'on appelle des affects. Alors très souvent, dans des assemblées un petit peu tout public, eh bien on a aussi cette responsabilité à prendre en compte, à savoir qu'on n'est pas là donc pour abîmer quiconque. Alors encore une fois, je me répète, mais je préfère que vous interveniez si dans mon verbe quelque chose vous heurte ou si vous aviez une perception différente donc de ce que je vais essayer d'évoquer. Alors je vais commencer par moi, c'est très inhabituel, je vais vous livrer une anecdote qui m'est arrivée, peut-être pour illustrer tout simplement donc, le sujet d'aujourd'hui, qu'est-ce que la psychanalyse. Parler de moi est impropre en analyse, on va plutôt parler de soi, mais entendre en tant que self, puisque la psychanalyse en fait est une interaction entre moi et l'autre. Il y a comme ça une espèce de lien qui peut être plus ou moins perturbé, on va dire qu'il peut être plus ou moins névrotique, je pense que tout le monde sait ce que cela veut dire, qui est un lien d'ailleurs quasi originellement fait d'amour et de haine, donc tout cela est très confus. Alors il m'est arrivé quelque chose donc il y a quelques jours, et vous verrez que ça prend en compte l'autre. L'autre n'est pas du tout péjoratif dans le discours analytique. Donc j'étais au téléphone un soir avec une amie qui me parlait d'un membre de son entourage qui se prénomme Patrick. Donc c'était en fin de journée et au niveau du cou, j'ai été prise de démangeaisons, mais insupportables, et j'ai des boutons qui sont apparus. On pourrait dire de façon très basique, compte tenu d'ailleurs des propos relativement négatifs, qui n'étaient pas d'ailleurs liés à un jugement, mais donc que cet ami tenait en ce qui concerne donc ce membre de son entourage, que j'en avais pris un coup. Et puis, c'est vrai qu'on dit que ce sont souvent les cordonniers les plus mal chaussés, bien qu'on soit rompu à une auto-analyse, bien qu'on sache en tant qu'analyste que les signes, notamment somatiques, ont un sens, j'ai un peu laissé ça de côté. Et puis, je me rendais compte au fil des heures, donc dans la nuit, le lendemain, que je bouffais une énergie incroyable avec ces démangeaisons. Alors, mon propre entourage, très éclairé, commençait à me dire, n'aurais-tu pas changé de produit de beauté? Alors, je me suis un peu énervée en disant, oui, ça, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Et puis, j'ai dit non. La journée a passé, vraiment, j'étais mal, et ça aussi, c'est peut-être une déformation professionnelle, je me suis dit, je vais laisser du temps au temps. D'abord, j'avais tout simplement besoin aussi d'avoir toute ma vigilance compte tenu du métier que je pratique, donc je n'ai absolument pris aucun produit qui puisse endormir ces démangeaisons. Le problème s'amplifiait et puis mon mari me dit « Mais tu es sûre, tu n'as pas changé de produit de beauté ?» Non. Puis ça m'énervait, donc il y avait quand même quelque chose qui devenait... J'étais agressive dans mes réactions. Sur ce, je vais dans ma salle de bain et je me rends compte que 48 heures plus tôt, effectivement, j'avais changé de produit de beauté. Donc il y a quelque chose que je n'avais pas voulu voir. Alors on va dire bien malgré moi, puisque je vais rentrer dans des détails très intimes, il s'agissait d'une base qu'on met sur le visage, mais il se trouve que à la parfumerie, on s'était trompé de produit, c'était la même marque, mais il y avait une variante. Et je me suis dit, alors tout d'un coup, les choses me sont revenues massivement, je me suis dit, ah ben d'accord, il y a peut-être un problème, puisque je suis allergique au collagène. Donc, je regarde donc sur les conditionnements. Effectivement, je vois que sur ce produit que j'avais mis le lundi matin, donc à peu près 48 heures plus tôt, effectivement, il y avait du collagène. Et c'est vrai que je n'avais pas été bien quand j'avais appliqué ce produit. Et dès le lendemain, j'étais revenue, il me restait un fond du produit initial, donc j'avais continué comme cela. Puis là, je me suis dit, bon, je vais quand même essayer de faire un effort, c'est-à-dire, je me suis dit, bon, collagène, ça doit quand même bien te ramener à quelque chose d'important pour que tu continues à avoir comme ça cette éruption. Et puis, je ne me suis pas tellement cassé la tête, donc pour mettre en place ce qu'on appelle en analyse des associations libres, c'est-à-dire des associations d'idées, je me suis dit, collagène, donc il y a cola qui te gêne, et cola, je me suis retrouvée face à la chanson populaire que tout le monde connaît, fais dodo, cola mon petit frère. D'autant que j'avais été prévenue le dimanche précédent, ma petite fille était chez moi, donc une petite fille qui a 4 ans et demi, et en pleine dippe avec son demi-frère qui était en bas de l'escalier, elle berçait un bébé imaginaire. Donc on voit que mon inconscient prévisionnaire préparait la chose de toute façon. Donc j'ai cherché, et puis il se trouve que j'ai une histoire un petit peu douloureuse, comme toutes les histoires, à savoir que lorsque je suis venue au monde, mes parents étaient mariés depuis 6 ans, donc j'avais un frère aîné, mais mon père à ce moment-là avait déjà une liaison, et il a attendu que ma mère accouche pour partir, donc vivre avec son ami, donc il a eu 2 enfants. Donc j'ai continué dans cette direction, et puis là, m'est revenu qu'un de mes demi-frères, que je ne vois pas, se prénomme Patrick. Bien sûr, je vois des gens qui ne connaissent pas mon histoire, mais qui l'anticipent. Et effectivement, donc mes parents étaient séparés géographiquement, puisque mon père vivait à l'étranger à ce moment-là, et ma mère en France au moment de la séparation qui a suivi. Et donc j'étais envoyée à certaines périodes de l'été en vacances chez mon père. Et bon, peu importe, il y avait du sadisme dans tout cela. Donc l'été 1957, j'avais à peu près 9 ans, oui, j'ai débarqué donc chez mon père et chez sa compagne, et elle était enceinte. Donc elle était enceinte de Patrick. Lorsque je suis arrivée à l'aéroport, toute contente, donc quelques semaines après, moi j'ai expliqué à ma mère que j'avais un petit frère. Ma mère n'était pas prévenue et j'ai engrammé une image d'horreur. J'ai vu peut-être l'angoisse et la haine de ma mère à la fois. Et quand elle a ouvert ma valise, elle a trouvé les photos du dit frère. Et je me souviendrai toujours qu'elle s'est mise à hurler en me disant, parce que je disais, mais c'est mon frère, il est joli. Elle me disait, non, c'est pas ton frère, c'est ton demi-frère. Et puis d'abord, il n'est pas joli et il louche. Donc, on voit que depuis maintenant, donc près de 50 ans, Cola, ce petit frère, ce demi-frère me gênait. Et vous voyez que l'analyse, même l'auto-analyse, c'est pas quelque chose de très simple en fait. Puisqu'après des années et des années, alors moi de pratique, en plus de ça, professionnelle, eh bien malgré tout, j'avais ce que Freud appelait, j'avais coincé en moi, donc ce fameux affect coincé dont parle Freud. Alors il faut savoir aussi que la psychanalyse, c'est un travail, donc bien sûr, individuel de chaque jour.